Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Depuis mercredi dernier, le groupe russe Gazprom a interrompu ses livraisons de gaz à la Bulgarie. La Bulgarie, comme la Pologne, a refusé de payer les livraisons de gaz en roubles, comme l'exigeait Moscou. Un paiement du gaz en roubles serait en effet revenu à contourner les sanctions adressées à la Russie par les Occidentaux. Le premier ministre bulgare Kirill Petkov estime que son pays peut tenir plus d'un mois sans gaz russe et il compte sur l'Union européenne pour accélérer la finition d'un gazoduc entre la Bulgarie et la Grèce. Mais à Sofia, cette décision du Premier ministre pro-européen ne fait pas l'unanimité. Le président bulgare, Roumen Radev, considéré comme pro-russe, accuse implicitement le gouvernement de s'être attiré les foudres du Kremlin en prenant ouvertement parti pour l'Ukraine. Et surtout, le président se fait l'écho d'une partie de l'opinion publique bulgare pour qui la Russie est une nation amie depuis plus de 100 ans. La Bulgarie a eu en effet une place de choix dans le giron soviétique pendant des dizaines d'années. De son côté, le Premier ministre dit ne pas vouloir céder. Il ne veut surtout pas que la Bulgarie soit à l'origine de la première fissure au sein de l'Union européenne. Alors pour comprendre la situation complexe dans laquelle se trouve la Bulgarie et qui d'ailleurs fait les choux gras de la presse russe, nous sommes ce matin avec Nadège Ragarou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au Centre de recherche internationale de Sciences Po. Et première question, quel est l'objectif selon vous, Nadège Ragarou, poursuivi par la Russie en coupant l'approvisionnement en gaz de la Bulgarie ?
Par cette décision, la Russie veut bien sûr établir un rapport de force avec la Bulgarie, mais plus largement avec l'ensemble des membres de l'Union européenne. Dans le rapport à la Bulgarie, comme vous l'avez indiqué, nous sommes à l'aube d'une décision importante qui doit être votée mercredi au Parlement visant à la possibilité d'une exportation d'armement à la destination de l'Ukraine. Or, en l'occurrence, le pays et le gouvernement sont profondément divisés. Une jeune coalition est arrivée au pouvoir en décembre 2021 au terme d'une année extrêmement laborieuse avec plusieurs scrutins. Il s'agit donc d'exporter la division, la peur, la fragilité, et cela d'une manière qui est extrêmement pratique pour la Russie, puisque la Bulgarie ne représente que 2% de ses exportations de gaz, et donc c'est un coût relativement faible. En prenant donc pour exemple le cas bulgare, mais aussi la Pologne, il s'agit d'adresser un signal à l'ensemble des États membres de l'Union européenne, qui eux sont, pour certains d'entre eux, beaucoup plus dépendants des livraisons de gaz, et qui doivent décider dans les semaines à venir s'ils accepteront de payer en roubles ou pas.
Mais l'objectif de Moscou en ciblant la Sofia et la Bulgarie est assez particulier. C'est essayer de retourner une opinion publique bulgare qui est en partie acquise à la Russie. Il y a un débat en Bulgarie.
Oui, le pays est radicalement divisé et il est divisé, comme vous l'indiquiez, sur une longue durée qui a été réactivée au cours des dix dernières années. On pourrait dire que le clivage entre les russophiles et les russophobes est le principal facteur de structuration du champ politique depuis 150 ans, c'est-à-dire depuis l'accession à l'indépendance de la Bulgarie en 1878. Avec deux dates marquantes, la Bulgarie doit son indépendance de l'Empire ottoman à l'intervention russe, mais très tôt, cette libération a posé la question de la possibilité d'une réelle souveraineté et donc est introduite une division entre ceux qui pensaient qu'il fallait une protection russe et ceux qui souhaitaient s'en détacher. Et cela a été en fait un débat reconduit sous le communisme, période qui a permis à la Bulgarie de connaître une forte croissance, une urbanisation, une industrialisation, mais qui a été vécue d'un côté comme étant un détournement par rapport à un chemin occidental, une aliénation, là encore, de souveraineté, et puis de l'autre comme étant le chemin précisément qui allait permettre à la Bulgarie de connaître la modernité. Or, ce système de clivage, très important dans les années 90, qui s'était un peu dissipé après l'intégration à l'OTAN et à l'Union européenne, est redevenu d'une grande actualité depuis maintenant à peu près une dizaine d'années.
Et juste pour revenir à la période plus historique, la période de l'occupation soviétique de 1944 incarne un conflit de mémoire encore très présent aujourd'hui.
Oui, d'ailleurs, le terme même d'occupation soviétique ne serait absolument pas partagé. La Bulgarie a été pour certains libérée par l'Union soviétique en septembre 1944. Elle était alliée de l'Allemagne nazie et elle avait décidé d'ailleurs de ne pas entamer guerre contre l'URSS en raison de la popularité des liens bilatéraux. Donc pour certains, il s'agit d'une possibilité de sortir d'une ère fasciste, entre guillemets. Pour d'autres, en revanche, il y a eu occupation relativement brève sur le plan militaire, mais satellisation sur le plan diplomatique et des choix économiques et politiques pendant 45 ans. Le pays donc reste divisé. Il ne l'est pas de la même manière que ce que l'on a pu observer dans d'autres États d'Europe centrale et orientale pour une raison simple, qui est que la Bulgarie a effectivement connu une croissance économique importante jusqu'à la fin des années 70 et est entrée dans une ère de stagnation plus tardivement. Donc il y a eu des effets de mobilité sociale ascendante qui expliquent de manière sociologique objective qu'une partie de la société ait vécu le passage au capitalisme comme étant un dévoiement, parfois une régression, et donc pas toujours une émancipation.
Et justement, aujourd'hui, quel est le poids que représente le Parti socialiste bulgare dans l'opinion publique, à savoir quand même que le Parti socialiste d'aujourd'hui est l'ancien Parti communiste. Dans quelle mesure la nostalgie du communisme participe encore à son attractivité ?
Alors, plus qu'une nostalgie du communisme, c'est un dégoût du post-communisme, en fait, qu'il faudrait voir. Le sentiment que le post-communisme est associé à de très fortes inégalités sociales, à un taux de corruption très élevé, à des élites dirigeantes perçues comme prédatrices. Son poids électoral, à considérer l'année 2021, est en chute régulière. Il a commencé le premier scrutin d'avril à 15%, le second de juillet à 13%, le troisième de novembre à 10%. Cependant, il a des soutiens solides dans des segments âgés de la population, dans de petites et moyennes municipalités. Et surtout, ce qu'il faut avoir en vue, c'est que le prisme des acteurs qui sont pro-russes est beaucoup plus vaste. Cela comprend, comme vous le disiez, le chef de l'État, qui officiellement n'est pas membre du Parti socialiste bulgare, mais qui représente une forte légitimité au sein de la société. Et puis ces sentiments-là, très diffusés sur les réseaux sociaux, fortement d'ailleurs promus également à la radio et à la télévision publique, touchent de larges secteurs de la population qui ne s'identifieraient pas comme socialistes.
Mais il y aurait d'autres forces politiques bulgares qui exprimeraient leur proximité avec la Russie, et peut-être même avec la figure de Vladimir Poutine ?
Oui, tout à fait. Et c'est là qu'on atteint d'ailleurs le point le plus fascinant. À partir de la fin des années 2000, et surtout donc dans les années 2010, une fascination s'est développée pour la posture viriliste de Vladimir Poutine, pour ce qui était perçu comme son affirmation d'un patriotisme, et surtout progressivement par sa capacité à incarner une vraie, entre guillemets, alternative idéologique à un Occident conçu comme dévoyé. Et ces sentiments-là ont été mobilisés par des partis populistes, par des partis qui sont nationalistes radicaux. Là encore, le parallèle avec le reste de l'Europe est tout à fait signifiant. Et donc notamment par un parti entré au Parlement lors des dernières élections qui s'appelle Renaissance et qui défend des positions très pro-russes et très pro-Poutine. Mais donc, le spectre en fait est très vaste. Il est un spectre qui va de la gauche à l'extrême droite, prenant parfois quelques petits segments de partis attrape-tout, qui se veulent des partis de la force incarnée, d'une autorité qui ne se soumettrait pas.
Alors, si les divisions autour de cette question russe menacent, donc on l'a compris aujourd'hui, la cohésion gouvernementale, puisque le Parti socialiste qu'on évoquait tout à l'heure fait partie de la coalition gouvernementale, est-ce qu'il y a d'autres épisodes qui suscitent les mêmes tensions ces dernières années en Bulgarie ?
Alors les principaux épisodes qui ont mis en relation la politique bulgare par rapport à la Russie, en fait, datent des années 1990, le moment essentiel où il a fallu choisir si la Bulgarie allait rejoindre l'OTAN ou pas, indépendamment de son adhésion à l'Union européenne. Et le Parti socialiste bulgare, très longtemps, s'y est opposé. Et puis, une fois que cette décision a été prise, le thème a été minimisé dans l'espace public, et même la période de la guerre du Donbass en 2014, un moment où la Bulgarie a été traversée par de très fortes divisions internes et une grande instabilité gouvernementale, n'a pas donné lieu à une mobilisation extrêmement prononcée ou à une très forte visibilisation publique. Donc on est vraiment en présence d'une réactivation très intense, très, très soudaine, très virulente, dans le champ public bulgare aujourd'hui.
Pour en revenir à la question du gaz, hein, puisque les ministres de l'énergie de l'Union européenne sont réunis aujourd'hui à Bruxelles, quels sont et d'ailleurs le ministre de l'énergie qui est aussi le ministre des finances bulgare a annoncé que il comptait sur l'Europe pour des approvisionnements en gaz. Quelles vont être selon vous les conséquences économiques au moins au court terme pour la Bulgarie de ce refus du gaz russe ?
Oui, les conséquences économiques sont hélas assez sérieuses. La Bulgarie, de ce point de vue-là, est paradoxalement plus exposée que la Pologne. Elle connaît une inflation qui ne cesse de croître depuis l'automne, qui est passée de 5-6% officiellement en octobre à 10-12% maintenant, qui est liée à la hausse des prix de l'énergie. Le pays a été également affecté par la crise du Covid et par ses conséquences économiques. On partait d'une situation relativement peu prospère, avec de très très fortes inégalités sociales. Et donc le fait de rechercher des approvisionnements alternatifs va déboucher, on l'estime, sur une augmentation des prix de 20 à 30 voire 40% du gaz. Donc on peut attendre à court terme évidemment une inflation, évidemment différenciée selon les secteurs de la société. Environ 150 000 foyers bulgares sont équipés du gaz, qui seront donc profondément touchés dans leurs factures, singulièrement avec l'arrivée des temps froids à l'automne, et donc le risque aussi de tensions qui vont être très profondément accrues sur le plan social, sur le plan régional, sur le plan générationnel, et donc de tensions politiques également.
Mmh. Que savez-vous de la fin des travaux de ce gazoduc qui doit réunir les réseaux grecs aux réseaux bulgares pour l'approvisionnement en gaz liquéfié bientôt ?
Alors, ils étaient originellement prévus pour la fin du mois de juin. D'autres observateurs considèrent que plutôt il s'agirait de la fin du mois de juillet, mais qu'entre le moment où il y aura achèvement des travaux et la possibilité d'utiliser effectivement ce mode de circulation, on devrait attendre encore quelques mois supplémentaires. La Bulgarie cherche également des soutiens du côté de l'Azerbaïdjan, que pour l'instant, elle n'est pas parvenue à obtenir. Donc, elle a infiniment besoin que l'Union européenne reconnaisse sa loyauté politique et lui accorde un soutien financier pour parvenir à affronter cette crise.
Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette semaine, les parlementaires bulgares vont se prononcer sur un soutien militaire technique à l'Ukraine. Si cette aide militaire est votée, Nadezhda Garou, peut-on imaginer des représailles russes à l'égard de la Bulgarie ?
La première question est de savoir ce qui va être voté exactement et si cela sera voté, puisque le Parti socialiste a indiqué qu'il ne trahirait pas son électorat, tout en ouvrant une petite porte sur la formulation du terme. S'agirait-il de voter impérativement ou d'inviter à ? S'agirait-il de réparer des équipements militaires ou éventuellement de mettre à disposition des équipements déjà fabriqués plutôt que d'en produire de nouveaux ? Donc il va y avoir déjà un travail très délicat de formulation. Et en fonction de ce travail-là, les réactions seront différenciées au niveau du Parti socialiste et au niveau de la présidence de la République en Bulgarie, avec donc des effets de message à l'attention de Moscou. Je n'ai pas le sentiment qu'il y aura des mesures de rétorsion nouvelles. La question, c'est qu'une partie des Bulgares espère qu'au terme de quelques semaines, voire quelques mois, reprendront certaines des livraisons de Gazprom, et cela n'est absolument pas avéré.
Merci beaucoup Nadezhda Garou d'avoir été avec nous ce matin dans les enjeux internationaux pour évoquer cette question de la Bulgarie et de répondre à cette question. Est-ce que la Bulgarie est le maillon faible de l'unité européenne ? Merci. Je rappelle que vous êtes, directrice de recherche au Centre de recherche internationale de Sciences Po.
France Culture. L'esprit d'ouverture.